I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Témoignages, faits de société, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré.
À 99 ans, il se souvient encore des jours du maquis comme si c'était hier. Paul Guigon raconte les aventures et mésaventures des années de la résistance tout en gardant un esprit simple et modeste dans ce reportage de Giovanni Simonet.
C'est votre dernier maquisard.
Oui.
Il est dans sa centième année.
Deuil de la commune.
Oui. Moi, je suis Pierre, je suis le président de l'association Roche-Paul pour mémoire, mémoire d'avenir. Voilà.
Puis là, c'est Et puis moi, je suis la fille de
Paul. L'accompagne.
Voilà. Qui l'accompagne aujourd'hui. Oui.
Il y avait essentiellement donc deux maquis Roche-Paul, le maquis Vaudely, qui était d'obédience communiste, et le maquis de l'armée secrète, dont faisait partie Paul. Et c'était une histoire qui était complètement oubliée, parce que, en fait, les maquis de Roche-Paul, au départ, étaient des maquis libres. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas contrôlés par la résistance ardéchoise. Le maquis communiste, eux, ils venaient de la Haute-Loire, ils sont implantés à Roche-Paul, et Claudius Brunier, qui était un frère des écoles chrétiennes, a démarré le maquis en dehors de toute affiliation des mouvements de résistance. Alors, cela a conduit, en fait, à ce que, à la fin de la guerre, eh bien, la résistance ardéchoise a été complètement un petit peu passée de côté, dans la mesure où personne n'était trop au courant de ce qui s'était passé. C'était vraiment une mosaïque, c'était éparpillé, quoi. Mm. Et la bataille de Soyons, donc, qui s'est déroulée dans la vallée du Rhône, qui a été menée par 40 maquisards roche-paulois. Là aussi, c'était une bataille qui a été complètement sortie de l'histoire. Et donc, pendant 15 ans, on a essayé de retrouver tout ce pulse pour reconstituer, en fait, l'histoire de nos maquis. Alors, on l'a pu notamment avec des gens comme Théo Vialmassa, qui était un grand résistant de Firminy, qui était le chef de secteur du réseau Vaudely. Et puis, bon, il a fallu aller à droite, à gauche. On a fait à peu près 17 structures d'archives pour retrouver un petit peu l'histoire.
On était deux dans la famille. J'avais un frère aussi qui était.
Oui.
Il devait partir en Allemagne. L'Estéo, quoi, c'était une mission obligatoire. Et il avait reçu tous ses papiers pour partir de Valence à la gare en Allemagne, je ne sais pas où le nom, je ne m'en rappelle pas. Alors, il devait partir pour. Et avant, le matin, il s'était habillé pour partir, pour prendre le car à Chantepie, là. Pour monter à Saint-Arène, parce qu'il fallait prendre la Micheline pour descendre sur Valence, quoi.
Oui. Chantepie, c'était le voiturier de Roche-Paul. Hein.
Voilà, c'est ouais. Ça. Et oui. Alors bon, le jour qu'il devait partir, mon frère, donc, il s'appelait Gustave, il s'est habillé, il a déjeuné, c'était pas jour, c'était nuit encore, c'était le bon matin pour prendre le car, là. Alors, quand elle a eu bien déjeuné, quoi, ma mère était pâle, était bien malade d'ailleurs. Alors, elle a été dire au revoir à sa mère, quoi. Et puis, ma mère, donc, sa maman, quoi, il a dit au revoir, Gustave, ce petit Gustave. Oh, papa, va. Papa, va. Et Gustave, il n'est pas parti. Il a reposé sa valise. Après, ça n'a pas été la même chose. Après, c'est que Gustave, à Valence, à l'appel, quoi, il n'y était pas. Alors, mon père, parce que mon père, après, était décédé. Alors, bon. Alors, les gendarmes venaient voir souvent. Alors, M. Guérin, et votre fils, là, Gustave, qu'est-ce qu'il est devenu? Oh, mon fils! Allez, il est parti maintenant, je n'ai pas de nouvelles, je ne sais pas quand ça en aura. Il n'était pas parti, il était juste caché. Enfin, il fallait bien dire quelque chose. Alors, les gendarmes sont venus plusieurs fois, et toujours la même rengaine. Alors, et votre fils, alors, vous avez des nouvelles aujourd'hui? Eh bien, pas de micro toujours. Je ne sais pas quoi dire, c'est embêtant. Mais il s'est douté. Il n'était pas bête non plus, hein. Faut pas croire. Hein. Alors, ils sont revenus peut-être 4 ou 5 fois, la dernière fois donc. Alors, toujours pas de nouvelles. Eh bien, non. Ils n'ont pas de nouvelles, quoi. Ils disent, bon, alors ils écrivent ce que mon père racontait. Quand ils ont fini de le questionner, télévisé Guigon, signé mon mensonge. Et c'était bien vrai. Enfin, il a signé, quoi. Voilà, ils sont partis. Alors après, bon, il y a eu le maquis. C'est ce qui a déclenché le maquis, ça, de partir en Allemagne. Parce que les jeunes, ils sont à Spol. Il y en avait peut-être de partir en Allemagne aussi. Mais ils se cachaient tant à travers, ça ne pouvait pas faire ça. Alors ils se sont groupés, ils ont fait un maquis.
Oui, voilà. Avec Claudius Brunier.
Hein? Et oui. Alors ils ont appelé tous les jeunes de la commune. Alors moi, bon, je suis parti, et Gustave aussi, mon frère, donc on était deux.
Ce qui est important de dire, c'est quand il y a eu la publication de l'appel pour partir au STO, au service du travail obligatoire. Bon, déjà, les jeunes d'ici ont arraché l'affiche, ils l'ont planquée sous la neige. L'affiche qui était affichée à la mairie, ils l'ont planquée.
C'est assez nous.
Et puis, ce qui est important de dire, c'est que personne, aucun jeune n'est parti au Rospol.
C'était, oui, c'était nous autres.
Aucun jeune n'est parti de... Tous les appelés ont...
Oui.
Aucun n'est parti.
On a tous été réfractaires. Personne n'est parti dans Rospol.
Et c'est comme ça, et ça c'est ce qui s'est passé en beaucoup d'endroits, c'est comme ça en fait que nombre de maquis se sont constitués. Quoi.
C'est ça. On n'avait jamais vu un fusil de guerre. Alors bon, on était au château là, pour loger, et puis on allait s'exercer là au terrain de foot là. On est allé là-haut.
Alors, le château, c'était, il était là, juste...
Oui, le château.
Oui, c'est une maison carrée, en fait.
C'était un château, quoi.
Donc là, c'est là que les jeunes se sont regroupés, du maquis. Oui. Et le terrain de foot, il est... Parce qu'à Rospol, c'est pas très plat. Oui. Donc le terrain de foot, il est à peu près à 2 km.
À peu près, oui.
À peu près. Et c'est là qu'ils allaient s'entraîner.
Voilà. Alors... Admettons que les Allemands montaient, on allumait la mèche et les arbres tombaient sur la route, ils barraient la route. À Soyons, ça a été comme ça. Alors, les Allemands, à Soyons, la route était barrée, que faire? Ils se sont mis sur la place de la gare, là. Et puis, voilà, alors ils ont entendu, puis ils ont descendu là-bas à Soyons, quoi. Il y a eu la bagarre là-bas. Oui. Et puis, les Américains, bien sûr, ils n'étaient pas loin déjà, ils montaient la vallée du Rhône. Ils pourraient chasser les Allemands. Mm-hmm. Et les Américains nous ont donné un bon coup de main. Parce que nous autres, on n'était pas quand même armés suffisamment pour les blinder. Et eux, c'est les Américains avec leur aviation. Ils sont venus en rase-motte. Ils ne peuvent pas être plus bas. Alors ils ont mitraillé, ils n'ont pas bombardé les Allemands sur la place de la gare. Ils ont mitraillé. Je me rappelle comme si c'était hier, il fallait voir ça, une pluie de balles qui tombaient par terre. Il y avait des balles explosives et des balles incendiaires. Alors ça tombait par terre, là, de tous les côtés. C'était comme la guerre, quoi, c'était pareil. Enfin bon, il y a eu la bagarre, puis après les Américains, une fois qu'ils ont bien bombardé les camps, après, bien sûr, nous autres, on ne peut pas rester là, on n'était pas assez armés quand même. Alors on s'est retiré, on est reparti sur Beaufort, là, et puis le restant des Allemands, parce que sur le terrain, il en est resté combien 100.
Oh oui, plus de 147,
je crois. 140, je crois. Hein.
Oui.
Oui. Alors les autres, les Allemands, après, le restant, ils sont remontés par la vallée du Rhône, ils sont partis chez. Ils continuent la route.
Et il y a Kamakézar qui a été tué, c'est leur chef.
Oui, on n'était pas en bas, sur la plaine. Donc, en dessous, ça, vous connaissez ça, là-bas. Ça fait des quêtes, tout le monde. On était en haut, quoi. En haut de Soyon, on dominait la vallée du Rhône, de la montée de la route nationale, le chemin de fer et tout. Il n'y avait pas que nous autres, comme Maquisard. Il y en avait tout le long.
Ah oui.
Tout le long de la crête, il y en avait de je ne sais pas d'où, je sais.
Bah, toute la vallée du Rhône.
Toute la vallée du Rhône était occupée par les Maquisards sur les crêtes. Après la bataille de Soyon, on est remonté sur
Beaufort.
Beaufort, oui. Alors, on a fait l'appel, bien sûr, parce que, on a compté, il en manquait, hein. Alors, il n'était pas là, alors il était porté disparu. C'était un type, il n'était pas dans le sport, celui-là. C'était un neveu de Eugène Naval.
Oui.
C'était la famille. Alors, pourquoi qu'il n'était pas là, qu'il n'a pas répondu présent parce que, il faisait partie de l'équipe de Brunier sur la route. Et lui, pour traverser la route, il n'a pas osé parce que les Allemands n'étaient pas loin. Mm. C'est là que c'est Brunier se fait-il pour. Alors lui, il est parti sur la vallée sur le Rhône, quoi, le fleuve. Alors seulement après, les autres, il y a une personne. Et lui, il n'a pas osé retraverser la route. Parce que les Allemands n'étaient pas loin. Là. Il a dit, si tu traverses la route, on te voit, il te tire dessus, jamais de la vie. Alors il s'est camouflé au bord du Rhône, bien au bord du Rhône. Il a attendu la nuit. Hein. Puis en pleine nuit, il a traversé la route, bien sûr. Et à pied, de là-bas, il est monté à Beaufort à pied.
Oui,
et puis le matin, mon disparu, il a apparu. Voilà. Il avait 2 ans plus que moi, j'étais de la classe 42. Alors, à la maison, chez nous, là-bas, il ne pouvait pas rester toujours là, à se cacher quand même, c'était pas... Alors, il allait donner des coups de main comme ça, à travailler, chez les fermes, chez les paysans. Et comme j'avais un autre frère qui était placé là à Durand, qu'on appelle, là, au Grand Durand, et il travaillait là-bas, il était plus jeune que moi, celui-là. Et au mois d'août, comme maintenant, au mois d'août, quoi, c'était les moissons. Et mon frère, Gustave, il allait donner un coup de main au Grand Durand pour moissonner. Il monte dans la maison, il monte à Durand, là-haut. Le Grand Durand, on connaissait là-haut.
Oui.
Et bon, de bon matin, il arrive en dessous de la ferme du Grand Durand. Il faisait jour, bien sûr, il faisait soleil. Il y a la route qui monte à cet endroit. Il s'arrête, il voit là-bas, en bas, des casques briller au soleil. Oula, il regardait bien, il s'était caché. Ils avaient un fusil à la main. Il a dit ça, c'est pas normal, il y a quelque chose. Bon, il est descendu un peu plus bas pour bien voir la maison de Durand, c'est qu'il allait, à combien 50 mètres, même pas. En dessous de la maison, il descend tout doucement, bien en cachette quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il voit? Des casques autour de la maison. Il dit, ben voyez. Ils avaient tous un fusil, comme ça, et la fenêtre. Alors ils avaient un fusil comme ça, tout prêt à tirer le lapin. Parce qu'ils croyaient sûr qu'il était dans la maison, qu'il va passer la nuit et qu'il va s'évader par les fenêtres, pas par les portes, parce que les portes étaient gardées aussi. Mais pas les fenêtres derrière la maison. Mais Gustave, il était en dessus, là, il a regardé la maison, il a dit, je suis en dessous, là, par là. Il a dit, ça, il y a quelque chose. Alors il a fait demi-tour. On couchait dans les fougères, remonter à la route, le chemin qui va à la croix de Faillot. Selon dans les bois, quand il montait comme ça, il entend parler des voix d'hommes. On lui dit, non, putain, c'est la milice qui fouille le bois maintenant. Enfin, il a monté comme il a pu, tout doucement, et arrive au chemin qui va à la croix de Faillot. Il s'est arrêté là, et il y avait des fougères. Cette hauteur-là, pas trop dure, il a arraché des fougères, à la main, hein, fait un bon temps. Il n'a pas de pioche, bien sûr. Avec ses mains, il a gratté la terre. C'était pas dur parce que les fougères, en arrachant, ça avait ramolli. Il fait un trou. Et il se recouvre avec les fougères. Alors il dit, comme ça, ils vont passer le chemin là-dessus. Ils ne verront pas. Puis il a entendu une voix de gamin. On dit, ça, c'est pas, il n'y a pas de gamin là-dedans. En effet, c'était des touristes. Ils allaient à la croix de Faillot. Mais allez deviner. Alors, il les a vus, lui, il les a vus passer. Mais ils lui ont passé à côté les pieds. Il n'a pas vu. Alors, il s'est tiré de nouveau, puis il est revenu chez nous, à la maison, quoi. Il n'a pas été maçonné à Durand, comme c'était dit. Alors, bon, après, bon, les miliciens, ils étaient à Durand, ils avaient... C'était des salopards. Hein. Alors, mais la patronne, c'était une femme, elle était veuve. Son mari, un de ses fils, était prisonnier en Allemagne, hein, mais ils n'ont pas tenu compte de ça. Non. Ils ont tout fouillé, les armoires. Ils ne les ont pas ouvertes, ils les ont foutues par terre. La pauvre femme, à son âge, faire ça, donc, hein, ils ont tout fouillé. Ils croyaient sûr que mon frère, donc, l'ouvrier, s'est caché, quoi, dans... Il cherchait dans les armoires, en vie dans les armoires par terre, il sortirait d'elle. Là, la pauvre femme, elle en avait pleuré. À son âge, faire ça, il fallait le faire. Alors bon, les autres personnes dans la maison, comme les autres, l'autre frère qui était plus jeune, ils étaient déjà à la terre, ils moissonnaient. Il s'appelait Régis. Il attendait son frère, Gustave, donc, pour venir lui aider. Mais il ne voyait jamais venir. Il a demandé, mais il doit venir, pourtant, il ne vient pas. Et comme les miliciens étaient passés, il dit, il s'est fait crocheter quelque part. Hein. Et là, il était à son coup, bien sûr. Enfin bon, les miliciens, les chefs, ils ont été voir donc, les maçonneurs, ils ont questionné donc, mon frère qui était plus jeune que moi, hein, encore. On leur dit, vous avez bien un frère qui doit partir en Allemagne. Il a dit oui. Alors vous avez des nouvelles de votre frère donc? Ben, non, peut-être à la maison, chez moi donc, peut-être à la maison, mais moi je ne sais rien du tout. Je sais qu'il devait partir, mais maintenant, je ne sais pas. Alors, il n'y a personne qui vient travailler chez vous, là, comme ça? Ben non, mais il y a moi, puis mon copain à côté. Bon, ils l'ont quitté, ils ont été questionnés à l'autre, qui n'était pas trop finul pour... Alors mon frère a dit, ça y est, on est cuit. Parce qu'ils vont demander les mêmes questions. Est-ce qu'il n'y a personne qui vient? Il va dire, si, oui. Et mon frère, il était à son cou. Hein. Je crois qu'il avait, le pauvre bourg, il avait vieilli. Alors, vous avez personne qui vient travailler chez vous? Il ne parlait pas bien français, heureusement. Non. Alors, ils m'ont questionné plusieurs fois. Il n'y a personne qui vient travailler chez vous? Enfin, non. Ils ont abandonné. Ils ont dit, oh, ils ont vu qu'il n'était pas trop fini.
Alors, il faut dire que... Carouche-Paul, la milice est venue plusieurs fois.
Ah oui.
La milice, elle est venue plusieurs fois. Et notamment, il y a eu plusieurs affaires, comme il y a eu une femme qui avait été soupçonnée d'avoir donné un litre de lait, un litre de lait au maquis. Et ils sont venus, ils ont tiré sur toutes les poules,
ils ont tué tous les
animaux, ils ont volé toutes les victuailles, les saucissons, tout ça. Et ils sont même montés au premier étage où il y avait un nourrisson. Et puis, alors bien sûr, il y a eu après, par rapport au maquis Vaudely, il y a eu l'attaque. L'attaque au Grand Pré, qui était le lieu où se trouvaient les résistants donc, du maquis Vaudely, où là, la milice est venue de Saint-Étienne. Et c'est là que le chef du maquis communiste, donc Vasco Corsi, a été tué en tentant de s'évader. Il a pas pu aller bien loin parce qu'il n'avait plus de lacets à ses chaussures. Et un autre résistant, Max Imbert, a été, lui, tué d'entrée lorsqu'ils sont arrivés.
De l'école, là.
Voilà. Et puis après, ils ont incendié la maison. Et ils ont donc déporté après tous les autres. Mmh. Et donc, beaucoup sont morts dans les camps d'Achau et de Flossenbourg, notamment. Mmh. Donc la milice à la Rochepol, elle a quand même sévi. Et ce qui a donné d'ailleurs après la guerre à des représailles, à des représailles du maquis Vaudely, pratiquement tous les miliciens qui étaient venus à Rochepol, qui ont participé à cette opération, ont été éliminés. Mmh. Ont été éliminés. Mmh. Ils ont balle dans la nuque, par-ci, fusillé par-là, jusqu'en 1953. Jusqu'en 1953, parce que Vasco Corsi, qui était donc le chef, était probablement diabétique, et la milice, non seulement l'a descendu, quoi, lorsqu'il tentait de s'évader, c'était au-dessus de l'école des frères, mais ils ont profané son corps. C'est-à-dire que comme il prenait de la saccharine, et comme il était blessé là où il saignait tout ça, ils se sont amusés à mettre de la saccharine pour que ça mousse, etc. Et après, il a été exposé sur le pavé là, de Rochepol. Et le chef de la milice qui était intervenu à Rochepol, qui s'appelait Jean Lozac, lui, il avait échappé aux représailles après-guerre du maquis Vaudely, il s'était réfugié en Espagne, où il avait été accueilli par son ami Franco, et où il avait trouvé un emploi dans un centre culturel français. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que dès qu'il est arrivé, il était pisté par des partisans espagnols. Et à un moment donné, en 1953, il avait été condamné, bien entendu, avant, par contumace, etc. Et il a été amnistié en 1953. Donc il s'est dit, c'est bon, je rentre en France. Seulement, dès qu'il est parti d'Espagne du centre culturel, immédiatement, il a été suivi, sa voiture a été suivie par les partisans espagnols. Et quand il a passé la frontière à Bayonne, en reprenant sa voiture le matin, il s'est retrouvé avec deux pistolets derrière la nuque. C'était les maquisards du Vaudely qui l'ont ramené dans un camion de primeur jusqu'à Rochepol, où ils l'ont exécuté. En 1953. Par contre, on ne sait pas où ils l'ont laissé. Il est enterré quelque part. On sait juste qu'il aurait été exécuté là où leur chef, Vasco Corsi, aurait été tué. Donc ça, c'est vraisemblablement toute l'école des frères.
Les gens, ils ont été quand même honnêtes. Ils n'ont pas dévoilé les jeunes qui n'étaient pas partis. Parce que les gendarmes, ils courtaient, demandaient des nouvelles des maisons, quoi. Un tel, qu'est-ce qu'il dit, vous n'avez pas vu ? Personne ne connaissait pas.
Vous étiez protégé par le village
Un peu, oui. Les gens ne parlaient pas. Ils ne vendaient pas les gens du pays. Sauf, quand même, hein, parce que moi je le sais, j'y étais, ils parlent du village. Du village. Hein. Quand mon frère, Gustave, il devait partir en Allemagne, il fallait rendre la carte de ravitaillement à la mairie, en main propre. Bon. Et Gustave, mon frère, je l'accompagnais pour le soutenir un peu. Alors je vais avec lui, chez Duchamp, hein. Alors que la femme, autant vous le dire, la femme, c'est tout mort là-bas. Alors, cette femme, il dit à mon frère, mais tu n'es pas encore parti en Allemagne, toi tu es encore là. Puis son mari, il a dit, mais qu'est-ce que tu mêles toi? Que putain, que tu regardes, ça t'agarde bien. Il partira bien quand tu voudras partir. Mais c'est pour dire, hein, pourquoi? Parce que tout type qui vendait un résistant, quoi, hein, ils avaient une prime à l'époque de 18 000 francs. Ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Hein, mais il fallait cracher le gars, quoi, bien sûr. Mais voilà, alors est-ce que la prime était destinée, ça, j'en sais rien.
Alors c'est une anecdote qui est, c'est vrai, qui est intéressante, parce que les principaux soupçons de collaboration, oui, c'était effectivement sur la femme du maire de la commune et le maire lui-même d'ailleurs. D'ailleurs, à la fin de la guerre, il avait bouché toutes ses ouvertures, oui, parce qu'il avait peur qu'on les pousse une grenade. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'il y avait le secrétaire de mairie, qui était Dumont, qui lui piquait les tampons, les machins, et il faisait les faux papiers.
Du maire. Mon frère Gustave, il avait sa carte d'identité, mais fausse. C'était le père Dumont, qui était secrétaire de mairie. Moi, j'y étais. Il a fait ça à faux nom, hein, s'appelait, au lieu de s'appeler Gustave, et Auguste, je m'appelle plus, Germain Auguste.
Hein. Elles étaient très bien faites, ces cartes.
Ah, mais c'était...
C'est que les enfants, après, avaient retrouvé la
carte
d'identité,
les
enfants ont posé la question au papa en disant, est-ce que tu connais ce Germain Auguste, est-ce que tu connais?
Oui.
Et le papa, il dit, bien sûr, je connais, c'était ton père.
Avec l'autre maquis, vous aviez des relations
Pas mal, oui. On s'entendait, mais pas trop, parce que je dis, c'était pas le même. Ils étaient communistes, quoi. Oui. Et nous autres, on n'était pas. C'était, autrement, au point de vue guerre, c'était pareil, quoi.
Oui, ok.
Mais la différence était plutôt dans la religion, quoi, si on peut dire.
Ouais. Ce qui ne les a pas empêchés quand même de faire des actions communes.
Oui.
C'est sûr qu'ils avaient les idéologies. Mais c'est toujours rigolo, Rochepol. Parce que le premier résistant en plus de Rochepol, qui est passé, lui, il était trotskiste. C'était Jean Reboul. Voilà. Et puis on a eu également... un petit mouvement royaliste de l'Action française, qui était... c'était vraiment... éclectique.
Mais ça, vivant là-bas, c'est un village, quoi, une commune, je ne sais pas quoi. Il y avait un convoi allemand arrêté. Alors, ils sont partis là-bas, ils ont su qu'il y avait un train qui... station là-bas, il y avait un train allemand qui était chargé de matériel. Alors, ça dit ici, un convoi, ils sont descendus des avions, que les camions, ils ont enfoncé les portes du train pour rentrer dedans. Et dans le train, dans le wagon, il y avait des moteurs d'avion. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Autre chose.
Des sacs de grains, non? Il y avait des sacs de grains.
Oui. Ouais. Alors ils ont tout cabossé comme ils ont pu, bien sûr. Les moteurs d'avion de M. Goussa, un coup de masse ou quelque chose, c'est fini. Bon, mais ils avaient aussi du ravitaillement. Du ravitaillement pour les bêtes. Ils avaient de l'avoine. De l'avoine. Un wagon chargé d'avoine. Alors l'avoine, au lieu de mettre le feu, ils ont chargé le camion, leur camion, des banquisards de là, bien à rabord. Hein. Alors les sacs de c'était de l'avoine. Moi, j'en en avais eu. C'est de l'avoine. Alors, ils ont chargé le camion plus qu'il fallait en mettre. On m'a fait bon. Le camion n'était pas, il était pas mal. Ils sont arrivés avec le camion chargé de alors, le sac d'avoine, il y a eu la distribution aux paysans de la commune. Et en premier lieu, les parents qui avaient un fils à. Dans le maquis, quoi.
Dans le maquis,
oui. Nous autres, comme moi, on était deux, on avait deux sacs de l'avoine. Et c'était des sacs, des grands sacs à 100 kilos. Hein. Et dessus, c'était écrit en allemand, parce qu'il y avait dessus, pas pour lire. Voilà. Alors, ils ont bougé le traiteur qu'ils ont pu, et puis ils sont revenus. Oui, c'était des coups de main, quoi.
Des sabotages.
Des sabotages, oui. Oui, c'était un peu le corps franc, quoi, qu'on appelait, quoi.
Il y a eu plusieurs coups de main. Hein. Il y a eu l'attaque du dépôt d'essence.
Ben oui, aussi à la Bastre.
De la Bastre, hein. Oui. Ils ont volé des milliers de litres d'essence pour la résistance.
C'est ça, oui.
Lorsqu'il y a eu un parachutage qui avait plus ou moins bien tourné. Il y a eu comme l'occupation du hameau de la Chapelle pendant 48 heures, hein, complètement isolé. Isolé.
Oui. Mais pourquoi ça. Comment c'est arrivé cette histoire du machin. De chez nous, on voit bien en face, là-bas, Chapelle. Oui. C'était la nuit, bien sûr, comme toujours, les parachutages. À Debessé, là où est le lac maintenant, c'était là qu'il y avait les parachutages. Bon. Alors que les avions anglais, c'était des anglais. Venait tourner pour lâcher le parachute, les conteneurs d'armement. Mais il fallait que d'en bas, les marquésards, avec des lampes, c'était la nuit bien sûr, avec des signaux. Hein. Tant qu'ils n'avaient pas reçu les signaux, les avions, ils tournaient. Ils venaient tourner chez nous, mais on ne les voyait pas, parce qu'ils n'étaient pas allumés. C'était la nuit, mais il n'y a pas de lumière. On les entendait tourner pas très haut, ils faisaient tourner, ils disaient, mais qu'est-ce que c'est qu'ils tournent. Mais ils attendaient que les baquisards ouvrent le feu en bas. Alors quand le feu s'allumait, ils disaient, bon, les Allemands, ils sont pas, c'est bon, le terrain est libre. Alors ils lâchaient leur machin, quoi. Et les autres marquisards d'ailleurs, il y en avait ailleurs de marquisards, je savais aussi. Alors, ils venaient récupérer les conteneurs, quoi, qu'il y avait des fusils, il y avait de tout, quoi. Mais il y avait un type, il s'est fait tirer comme ça, là-bas. Il a reçu sur la tête, le conteneur. Il n'a pas vu descendre. Il n'avait tellement, que descendre, tu comprends.
Et ce jour-là, pour une raison ou pour une autre, peut-être que les Allemands étaient là, etc., les avions qui devaient donc larguer sur DEC, on n'a rien vu, quoi. Et bon, ils ont tourné. Et en fait, ils ont eu une confusion. Ils ont vu des feux sur la chapelle qu'ils ont pris pour... Donc, ils ont largué.
Pour larguer, oui.
Donc, ils ont largué. Et bien entendu, après, bon, bah, quand les deux maquis ont eu connaissance, donc qu'ils ont largué là, bah, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ils ont carrément, donc... ils ont coupé toutes les liaisons téléphoniques, les poteaux, tout ça. Ils ont investi le hameau de la chapelle et pendant 48 heures, ils ont tout récupéré.
C'est mon frère, Gustave, c'est toujours Gustave, bien sûr. Hein, il travaillait dans une ferme là-bas, à Montmarcon, là-bas, chez Montagne, Adrien Montagne. Hein. Eh bien, il a passé presque toute sa jeunesse, enfin, pas dans le maquis, avant qu'on parte, là-bas, chez lui, chez Montagne, pour travailler, quoi. Bien, c'est une ferme, mais loin là-bas derrière, bien caché. Eh bien, on n'en a jamais parlé de cela. Des paysans qui ont logé des maquisards, personne. Il y en a d'autres, il n'y a pas que montagne. Mais moi, je ne les connais pas tous. Parce que ces montagnes, Adrien, il s'était fait prendre, comme ça, de loger un réfractaire. Il était fusillé pour vous. Moi, j'ai rien oublié de ça. Je ne sais pas. À Boff. Oui, à Boff. On était là-bas à Boff. On avait réquisitionné l'école, c'était au mois d'août. Les gamins étaient tous en vacances, quoi. Et on logeait à l'école de là-bas. Et puis le dernier jour, quand on partait sur Soyon, il faisait chaud, c'était au mois d'août. On se lavait, il y a un grand bassin, on se lavait tout le monde, nous autres. Et puis de là, Claudius Brunier, ouais, qui était chef là, il nous dit, eh les gars, lavez-vous bien, parce que on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Deux ou trois heures après, il s'est fait tuer à Soyon. Mais ça m'a resté dans la tête, cette affaire-là, que j'y pense souvent. C'est vrai, ça. Lavez-vous bien, les gars. Hein? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. À lui, à nous, non, mais à lui, c'est... Il s'est fait tirer là-bas. Et tant qu'il était de mon âge, moi, ça m'a resté.
Pourquoi c'est important pour vous de raconter aux jeunes, de raconter à tout le monde ce qui s'est passé?
Moi, j'aime bien le raconter parce que les jeunes, ils savent rien. Ouais. Ils savent pas.
Si on nous le dit pas, c'est vrai qu'on peut savoir, en fait.
Si personne ne leur dit pas, ils ne divisent pas les pauvres. Je ne suis pas contre eux, moi. Mais ils pâtissent à croire ce qu'on leur dit. Ils disent, mais c'est pas possible. Voilà. C'est ça un peu le problème.
Enfin, nous, on a toujours cru, hein. Toujours raconté depuis tout petit, jusqu'à aujourd'hui. On a toujours eu des histoires d'éveillés qui n'en finissaient pas.
C'est ce que je dis, parce que de cette époque, je suis tout seul. Et ça, je le regrette, parce que quand je vais à Roche-Paul, je ne trouve personne, de mon âge, quoi. Alors, parler à qui? Voilà, ça me manque, ça.
Et c'était important parce qu'à Roche-Paul, justement, tout ça, c'est une mémoire qui était enfouie, quoi. Qui n'était pas occupée. Tout un pan de l'histoire qui était complètement occulté. C'était trop parcellaire, trop. Chacun avait son petit.
C'est vrai.
Et puis, comme le maquis Vaudely était un maquis assez replié sur lui-même, donc il n'y avait pas beaucoup de. Après, tout est reparti, les archives sont reparties sur la Haute-Loire, on en a chié, pour.
Les jeunes, moi, je me parle aux jeunes comme ça, mais ils pâtissent à croire ce que je leur dis. Hein. C'est ça le problème. Alors, s'ils pâtissent, alors finalement, on ne dit plus rien. Comme si tu sais.
Maintenant, l'histoire est connue quand même. Maintenant, l'histoire est bien.
Oui.
Ah oui.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.